Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec mon meilleur invité, ici présent, Charles Gave. Comment ça va Charles ?
Ça va très bien.
Le printemps arrive, il fait beau, il fait bon.
Il s'est rasé, il s'est coupé la moustache, on comprend pas ce qu'on voit.
Oui, bah c'était pour tenir l'hiver quoi. Maintenant c'est nettoyage de printemps.
Ça tient chaud.
Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il y a eu un grand défrichage et puis on peut attaquer le printemps en toute sérénité. Donc comme d'habitude, on va commencer avec un petit point diplomatique. Tout ce qui est avancée militaire, etc., c'est pas forcément très pertinent, surtout que ça stagne beaucoup. Il y a beaucoup d'incertitudes des deux côtés. Enfin voilà, ça commence à s'enliser un petit peu, il semblerait. Donc c'est pas forcément ce qui va être pertinent d'analyser, surtout sur avec le fait que la vidéo sortira d'ici une semaine. Donc, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est la demande de Vladimir Poutine de payer le fait que les pays européens payent le gaz russe en roubles et non plus en dollars.
Ou en euros.
Du coup, c'est quelque chose d'intéressant. Ça va un petit peu dans la même lignée que la Chine qui veut maintenant payer le pétrole en yuan. Cependant, les pays européens semblent pas très fans de l'idée. Pour l'Allemagne, c'est une rupture du contrat. Donc on verra ce que ça donnera.
Ils ont déjà rompu le contrat puisque ils payent des euros et que ces euros sont ensuite saisis à la banque centrale. Donc ceux qui ont rompu le contrat, c'est les Allemands, c'est pas les Russes.
Ouais.
C'est-à-dire que l'Allemagne demande à recevoir du gaz et à pas le payer, quoi.
Oui.
C'est un peu curieux, je sais pas moi. D'habitude, quand vous livrez un produit, vous attendez un paiement. Mais comme ils n'ont pas le droit d'utiliser les euros, ces braves ou les dollars, ces braves Russes, à quoi ils voudraient être payés? C'est eux qui ont rompu le contrat.
Oui, c'est vrai.
C'est n'importe quoi, quoi.
C'est vrai, c'est un petit peu logique. Mais à votre avis, comment ça va se régler cette affaire? Est-ce que vraiment on va payer le gaz russe en rouble? Est-ce que
il y a pas de rouble.
On va prendre autre chose.
À l'extérieur de Russie, il y a pas de rouble. Si vous voulez, ils ont des excédents des comptes courants, donc ça veut dire automatiquement il y a pas de rouble à l'extérieur puisque ils vendent plus qu'ils achètent, donc il y a pas de rouble. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que il y a que deux possibilités, ou bien les Européens vont acheter des roubles, mais je crois que d'après ce que je peux savoir, ça voudrait dire qu'ils paieraient en or. Donc ils achèteraient des roubles avec leurs réserves d'or. Et à ce moment-là, les Russes seraient peut-être pas mécontents de recevoir de l'or.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Ou deuxième hypothèse, les Européens vont devoir émettre des obligations en roubles. Ce qui mettrait dans une position de dépendance vis-à-vis de la Russie. Puisque l'Europe serait obligée d'emprunter dans une monnaie étrangère pour payer son énergie. C'est-à-dire que si on leur coupe le rouble, ils ne pourront plus payer leur énergie. Donc, dans les deux cas de figure, c'est une perte totale de face pour l'Europe, quoi.
Oui.
Et la troisième position, c'est qu'ils achètent leur gaz ailleurs.
Oui, c'est ça.
À trois fois le prix.
Oui. Bah, à mon avis, c'est ce vers quoi on semble se diriger.
Bah oui. Bah, à ce moment-là, nous, on a fait des calculs savants ici. Compte tenu de la hausse du prix du gaz, de l'énergie, etc., ça va déclencher une récession d'à peu près 2% du PIB européen.
D'accord.
On va être à moins 2. Mais si le prix du gaz, si on le payait au prix du gaz d'aujourd'hui, non pas au prix du contrat, on serait plutôt à moins 4. Donc ce que les Européens sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de dire qu'on préfère avoir une récession de moins 4 qu'une récession de moins 2. Quoi.
Mm-hmm. Oui.
C'est comme ils veulent. Hein.
Oui, on voit bien qu'il y a pas mal de politiciens maintenant qui nous disent que, en gros, pour aider les Ukrainiens et pour continuer à combattre la Russie, faut mettre des pulls chez soi et accepter de pas mettre le chauffage. Bon, alors c'est amusant quand
oui,
ça vient.
Pas mettre des pulls chez soi, mais c'est bien joli, mais les pulls chez soi, ça c'est pas tellement ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va arrêter de faire des voitures, on va arrêter de faire des vélos, on va arrêter de faire de l'industrie et on va avoir tout le monde au chômage. Et les gens, ils auront pas beaucoup de température chez eux parce qu'ils pourront pas se payer le chauffage.
Ouais.
Donc, si vous voulez, c'est pas un petit sacrifice qu'il faut faire. ça va être une gamelle d'anthologie qu'on devra uniquement aux politiciens européens.
Oui, c'est pour ça quand c'est Anne Hidalgo qui fait ce genre de remarques, c'est facile pour elle, puisque c'est pas elle qui paye l'essence. Enfin, elle a pas payé un truc depuis 2013, approximativement. Donc oui, pour elle, ça ne la concerne pas, et elle doit penser que c'est juste une histoire de thermostat. On va vivre peut-être 1 ou 2 degrés en dessous, et du coup, normalement, on devrait l'accepter. Mais effectivement, bah, ça va concerner derrière tellement, tellement de choses par rapport au pouvoir
d'achat.
Pensez
à ces pauvres gars des gilets jaunes qui avaient du mal à rouler en voiture et à acheter leur clope. Ouais. Quand l'essence était à 1 euro, maintenant qu'elle est à 2,30 ou 2,40, ils vont aller à pied ou en vélo, hein, les pauvres.
Ouais, ça va être très compliqué. Donc on verra ce qui va se passer. Mais effectivement, c'est une réaction plutôt logique, hein, de la part de Vladimir Poutine, même si c'est...
Bah, il dit, écoutez les gars, vous voulez pas que je me serve votre monnaie, vous voulez pas que je me serve des dollars, vous voulez pas que je me serve votre monnaie. Bah, si ça vous fait rien, bon, vous achèterez avec ma monnaie, comme ça il n'y aura pas de problème, je saurai comment faire. Mmh. Ma monnaie restera ma monnaie, puisqu'on lui interdit d'utiliser les monnaies aussi bien américaines. Ce qui veut dire quelque chose qu'européenne, ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ont fait les États-Unis et l'Europe, ça veut dire tout simplement que plus personne ne va vouloir garder des réserves en dollars ou en euros. Parce que ça veut dire qu'on peut vous les piquer si vous commencez à sentir des pieds, on va vous dire non, on vous prend vos réserves. Mmh. Donc ça veut dire que c'est la fin de Bretton Woods.
Oui, bah en tout cas...
Ça veut dire que Bretton Woods est mort.
En tout cas, on sent qu'il y a une espèce de bloc oriental qui se dit, voilà, si je me prends des sanctions à chaque fois que je fais un pas de côté, bah en fait, j'arrête d'être dépendant de votre
et
système.
Et c'est la fin logique de ce que j'avais appelé l'extraterritorialisation du droit américain sur le dollar. C'est-à-dire, à partir du moment où vous servez du dollar, les Américains se croient autorisés à vous dire vous avez le droit de faire ceci ou pas le droit de faire ceci, et les gens disent, bah, allez vous faire cuire un œuf. Je vais utiliser ma monnaie et je ferai ce que je voudrais. Je suis souverain. C'est-à-dire qu'on rappelle aux États-Unis qu'ils ne sont pas les maîtres du monde.
Ouais. C'est-à-dire que... Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un pic de rapports commerciaux...
On est arrivé à un pic de conneries en ce qui concerne l'Europe et les États-Unis.
Ah oui,
ils ne peuvent pas aller plus haut. À partir de maintenant, leur économie va commencer à plonger.
Ne les sous-estimez pas.
Ils peuvent aller plus loin. Ça veut dire qu'en ce qui concerne la capacité de détruire les économies, je crois qu'ils sont allés aussi loin qu'ils peuvent aller. Quoi. Maintenant, on va voir les résultats.
C'est possible. Mais est-ce que vous pensez qu'on est arrivé un petit peu à un pic de mondialisation ?
Ben, la mondialisation est en marche arrière à toute allure.
Oui, c'est ça. On va se retrouver sur des économies qui vont pas.
L'étape suivante, c'est le contrôle d'échange. C'est-à-dire que comme on ne gagne pas un rond en France et qu'en plus on débrouille, que vous avez perdu encore plus que d'habitude en vous empêchant d'acheter de l'énergie à un prix de marché normal. Ben, tous les épargnants français vont se dire « je veux sortir de cette trappe, je veux aller investir dans des pays où ils sont encore... » Donc on va empêcher les épargnants français d'investir dans des pays normaux. Donc ça veut dire qu'ils ne vont plus avoir le droit de sortir de leur épargne de France ou d'Europe. Quoi. Et ça commence. Quand on vous empêche d'acheter des trucs des obligations russes, c'est du contrôle d'échange.
Ouais. Oui, et puis bah, ça peut très vite dériver vers pareil pour la Chine, pour d'autres pays.
Ah ben oui, on dit que la Chine, je sais pas, ils font brûler du charbon et c'est très mauvais pour la planète Gaïa. Donc on décide que vous n'avez pas le droit d'acheter des obligations chinoises. Quoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on s'engage dans le contrôle des prix, le contrôle des intérêts, etc., ça se termine toujours par le contrôle des changes et des camps de concentration. Ça, c'est toujours la prochaine étape, c'est le contrôle d'échange. Et l'étape suivante, c'est que moi, dans un camp de concentration, parce que je dis des conneries.
Mmh. Ah oui, bon, je
vais, pense vous, que... vous pourrez vous en échapper parce que vous êtes jeune, mais moi, j'ai du mal à grimper au-dessus des fils de fer barbelés. Hein.
Ouais. En plus, mes deuxième et troisième prénoms, c'est les prénoms de deux grands-parents qui sont... enfin, arrière-grands-parents qui sont échappés, en plus. Donc j'ai ça dans le sang, ça devrait peut-être bien se passer. Maintenant, on verra.
Apprenez à sauter avec une perche au-dessus des...
Ouais, je vais commencer un petit peu d'entraînement. Il faut que je me remette au sport. Autre sujet, enfin on reste un petit peu dans la même sphère quand même, mais sur un sujet peut-être moins économique. Globalement, est-ce que... Enfin, j'ai l'impression, j'ai beaucoup de soutien naturel envers les Ukrainiens, mais la parole donnée à certains Ukrainiens en Europe, dans des grands médias, j'ai l'impression que ça va juste nous mener vers une guerre mondiale. Ils
C'est pas
demandent.
impossible, mais en réalité, si vous voulez, tout le monde sait que les Ukrainiens sont des. En particulier les hommes politiques ukrainiens, sont des brigands. Si vous voulez, ça a toujours été. C'est le pays qui a le plus tôt fort taux de corruption. Le grand homme président vient d'interdire toute la télévision et d'interdire tous les autres partis politiques, donc ça devient une dictature. On a chopé la femme d'un ministre qui se barrait en Pologne avec 25 millions de dollars en cash dans ses bagages. Donc c'est un pays de voyous. Et c'est ça qu'on nous présente comme le futur de la démocratie. C'est peut-être pas possible, c'est peut-être le futur de la démocratie. D'ailleurs, on en a quelques exemples en France, mais à ce moment-là, c'est pas le genre de démocratie que moi j'aime, quoi.
Oui, bah c'est pas ce qu'on appelle normalement une démocratie,
On
effectivement.
appelle c'est une kleptocratie, la Pologne. Par exemple, l'Union européenne vient de sortir la caisse. La Cour des comptes européennes vient de sortir une étude sur les 12 milliards qu'on avait donnés à la Pologne d'euros. Personne n'a la moindre idée où ils sont passés. 12 milliards d'euros, ils disaient, 12 milliards d'euros, c'est du pognon quand même. Hein. Pour un pays de 40 millions d'habitants et où il y a 10 ou 15 politiciens ou kleptocrates qui sont tout partagés, je voudrais que les gens regardent un petit peu les oligarques ukrainiens, le pognon qu'ils ont sur la Côte d'Azur et à Londres.
Oui, d'ailleurs en plus Zelensky il a dit oui, les valeurs valent plus que les bénéfices.
Oui, ça c'est ce que disent toutes les crapules.
Ouais.
Je ne dis pas qu'il est une crapule, mais ça fait toujours quand les gens commencent à me dire qu'il faut mépriser l'argent, je me dis la vie humaine doit être de bon marché dans ce pays.
Non, c'est assez étonnant qu'il y ait un tel soutien envers ce régime. D'ailleurs, je précise que Dieu sait que je ne suis pas vraiment du côté des Russes dans cette affaire, mais il y a certaines choses qui sont intolérables du côté ukrainien. En l'occurrence, enfin, qu'on ne dise pas que c'est une démocratie, l'héroïsation de Zelensky, j'en ai ras le casque. Et effectivement, enfin, c'est un pays qui a l'air au moins aussi corrompu que la Russie elle-même,
Beaucoup
où
plus, parce que
l'opposition,
la
c'est
Russie, elle a eu
impossible.
assez. Vous prenez la Russie, l'Ukraine et la Pologne, quand le mur de Berlin sont tombés, ils étaient au même niveau de vie. Ben, le niveau de vie ukrainien a baissé depuis, le niveau de vie polonais a énormément monté. Il n'y avait pas de différence, quoi. Donc, c'est une kleptocratie. Depuis le début, c'est une kleptocratie, là. Et donc, on présente ça comme une merveille de résistance à la tyrannie. Mais ils n'ont pas regardé ce qui s'est passé avec l'affaire Biden, l'affaire de la façon dont ils ont corrompu le fils de Biden. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Le président Biden va et dit au président ukrainien, ou vous virez votre ministre de la Justice, ou je ne vous file pas les 2 milliards de dollars
D'aide militaire.
d'aide militaire, ou les 4, je ne sais plus combien c'était. Et donc, c'est ces gens-là qui sont des. Et il a viré le ministre de la Justice pour protéger le fils Biden. Donc, qu'on présente ça comme des. Bon, j'ai rien contre les Ukrainiens, mais ce sont des bandits, quoi, puis c'est tout.
Par ailleurs, ça, on je vais rebondir là-dessus parce que y a le New York Times qui a admis, à chaque fois ça arrive comme ça par petite vague, a admis que toutes les histoires relatives à l'ordinateur justement du fils
Du fils
Biden,
Biden.
dont les républicains avaient beaucoup parlé à l'époque de l'élection de 2020 et tout. Tout le monde disait que c'était, enfin, pareil, comme d'habitude, ouais, c'est un coup des Russes, de machin, de désinformation, de bidule, pour désinformer les gens et faire élire Donald Trump. Et le New York Times dit, bah, en fait, cette histoire, c'était vrai. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que, bon, il pourrait continuer dans le mensonge maintenant que plus personne n'en a rien à foutre. Mais il commence à baisser un petit peu dans leur soutien au président. Et je trouve ça intéressant parce que peut-être que, en fait, ils perdent beaucoup de foi. Peut-être pas dans le Parti démocrate globalement, mais dans beaucoup de personnalités politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et la question se pose, est-ce qu'ils vont défendre aussi viscéralement les personnalités politiques démocrates lors des prochaines échéances électorales? Donc il y a les midterms qui arrivent bientôt, dans quelques mois. Après ça, il y a l'élection présidentielle de 2024. Je ne sais pas si Biden va pouvoir se représenter parce que, vu le niveau de sénilité actuel, ça me semble un petit peu improbable. Mais je me pose la question, est-ce que vous pensez que la force médiatique de gauche américaine va être aussi forte, aussi importante lors des prochaines élections?
Ben, je ne sais pas. Alors, vous avez présenté la thèse du New York Times étant honnête intellectuellement, essayant de. Un petit peu, quoi.
Honnête, honnête
Honnête
à rebours, hein,
à
parce
rebours,
que.
etc. Il y a une autre thèse qui est tout à fait possible, c'est qu'avec ce que fait le procureur Durham, qui est le procureur spécial qui étudie tous ces trucs-là, il va peut-être sortir des choses abominables sur Biden et qu'il est temps de lâcher le bateau quand il est encore temps, quoi. Donc, c'est peut-être simplement le New York Times qui est en train de nous annoncer qu'il va se passer des trucs abominables sur Biden et sur les démocrates et qu'il est temps de sortir du bateau, d'aller vers les chaloupes, quoi. Je sais pas. On va
Possible.
le savoir assez vite si c'est le cas. Parce que dans ce cas-là, il y a Durham qui va sortir avec un certain nombre d'inculpations qui risquent de faire mal, quand même.
En tout cas, c'est quelque chose d'assez positif, je trouve, parce que même si la vérité n'arrive pas au bon moment, puisque bah, ça a quand même
L'essentiel, c'est
contribué à voler une
que
élection.
l'essentiel, ce serait que les Clinton aillent en prison, quoi.
Oui, les deux. je trouve que c'est quand même positif dans le sens où les mensonges d'État comme ça ne demeurent pas forcément éternellement.
Non, 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 non,
Et
surtout
un
quand il y a un
jour vient
procureur qui
où,
te.
voilà, il y a la vérité qui sort un jour. C'est un peu positif, même si c'est le genre de. Alors, cette affaire en particulier n'a pas forcément fait élire Joe Biden, mais il y a quand même.
Oui, mais il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de
Voilà,
choses.
ça va dans le même sens
Cette
que
espèce
tout un ensemble.
d'omerta qui a eu lieu sur tout Biden, tout le monde savait que Biden était corrompu, tout le monde savait qu'il était gâteux, et on a caché ça on l'a poussé comme le sauveur des États-Unis, alors
Oui,
que,
oui.
et on voit le résultat, du coup le monde est à feu et à sang, quoi.
Oui. Et je me souviens d'études d'opinion où c'était peut-être le Pew Research Center, mais je suis pas certain. Enfin bref, c'était un institut tout à fait reconnu aux États-Unis, un institut statistique, qui demandait aux gens s'ils étaient au courant de plusieurs scandales concernant Donald Trump ou Joe Biden, scandales avérés ou non, peu importe. Et à chaque fois, les gens étaient beaucoup plus informés sur tout ce qui pouvait potentiellement toucher Donald Trump, le fait, voilà, c'est un coup des Russes en 2016, tout ça. Alors que tout ce qui concernait Joe Biden, personne n'était au courant. Et même s'ils étaient au courant, enfin, c'était vaguement pas important pour eux, parce que c'était un peu obscur, et puis c'était un truc de conspi, donc voilà, on n'y touche pas trop, on sait pas. Et aujourd'hui, enfin, ça sort un petit peu, donc bon, ça fait plaisir, même si c'est vraiment à rebours, et que c'est un ensemble qui a peut-être coûté l'élection, enfin la réélection à Donald Trump,
Tout à
c'est une
fait, parce qu'il y a eu
possibilité.
70 000 voix d'écart à l'écart, à l'arrivée, c'était pas beaucoup.
Ouais, oui, c'était pas énorme.
Sur 5 États.
Ouais, sur 5 États,
À
avec en
70 000
plus,
voix.
pareil, on va voir, je sais pas si ça va sortir, d'ailleurs je sais pas si c'était vrai, mais peut-être qu'on aura aussi d'ici quelques mois ou quelques années des comptes rendus sur les élections dans les États
Parce
un
qu'on
peu
sait par exemple, on
litigieux.
l'a su 20 ans après, mais que les élections entre Kennedy et Nixon qui s'étaient passées donc en 60, en 50, 58 ou 62, je sais plus, 62 je crois. 62 je crois. C'était 62, c'est ça, 62, et ben qu'elles avaient été volées parce qu'il y avait eu des fraudes massives au Texas et dans l'Illinois, Chicago. Et que c'est ça qui avait emporté l'élection pour Kennedy. En fait, c'était Nixon qui aurait dû être élu. Donc, mais on l'a su après 20 ans. Donc, les fraudes aux États-Unis, ça arrive, mais on les a pas souvent.
Oui, pareil d'ailleurs avec. Enfin, d'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement, parce que le gap est vraiment très, très limité, mais pareil, l'élection de 2000 entre Gore et Bush, on ne sait pas encore aujourd'hui vraiment ce qui était vrai, ce qui était
Non, ce qu'il y a, c'est
faux.
que c'était tellement près avec dans la
Ouais, il y avait une
Floride
différence de 500
que
voix en
c'est
Floride.
ce que ben c'est le ça s'est passé de façon légale, c'est la Cour suprême qui a décidé qu'il avait
Ouais,
gagné, puis voilà.
oui, c'est ça. Donc là, peut-être qu'on aura des informations sur la Géorgie. Je ne sais plus quels étaient les États mitigeux. Mi peut-être Michigan,
Y avait Michigan, il y avait
Wisconsin.
l'Illinois, il y avait la Géorgie, il y avait l'Arizona. Et la Philadelphie. Et la Pennsylvanie.
Ouais, ça devait être ça, ouais. Il y avait 5 ou 6 États. Ouais. Bref, donc voilà pour les affaires américaines. Et alors, autre scandale pour le coup qui concerne la France, donc dont on parle un petit peu ces dernières semaines, même si ça semble très peu atteindre la popularité du président, c'est le scandale McKinsey. Donc voilà, on apprend ça, le gouvernement, enfin l'État, utilise des milliards d'euros pour demander des tableaux Excel et des PowerPoints à McKinsey qui font des copier-coller de ce qu'ils font pour les autres États, ce qui ne nous aide en absolument rien, mais on trouve que c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de cette
Là,
utilisation massive
j'ai
des
alors
cabinets de
là,
conseil?
oui, bah, je trouve d'abord que c'est absolument scandaleux, bien entendu, mais j'ai entendu Raoult,
Oui?
à qui on a posé cette question.
Ouais? Il a dit quoi?
Et bien, il a dit quelque chose qui m'a paru plein de bon sens, comme toujours avec cet homme qui est tout à fait remarquable, pour lequel j'ai une admiration qui ne se dément jamais. Et il a dit, bah, écoutez, c'est très gentil, nous on est l'objet sans arrêt de contrôle par les autorités hospitalières, et on a, disait-il, littéralement, que des crétins qui viennent nous voir, qui connaissent rien, qui nous posent des questions imbéciles, qui veulent savoir si on a été gentil avec le personnel, enfin des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et on a eu un contrôle qui a été fait par des gars à notre demande de McKinsey, et qui a été parfaitement professionnel,
D'accord.
et qui ont fait vraiment le boulot, et on a vraiment vu ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Donc ce que disait Raoult, il disait, ben, vous savez, la raison pour laquelle ils font faire les contrôles, etc., les études par McKinsey, c'est que le personnel administratif français est devenu complètement nul. Il reflète l'écroulement de l'éducation en France, et donc les types, ils sont même pas capables de faire tourner un tableau Excel. Et donc, on dit, c'est scandaleux, mais c'est peut-être simplement que le personnel administratif français aujourd'hui est tellement incompétent qui réussit plus à faire les contrôles qu'il était capable de faire autrefois, ce qui expliquerait le drame de la justice, de l'éducation nationale, simplement parce qu'il n'y a plus que des gars mal éduqués qui sont là-dedans. Donc c'est peut-être beaucoup plus grave, c'est pas de la corruption de la part de Macron, c'est que si Macron veut savoir ce qui se passe dans l'administration, il faut peut-être qu'il demande à McKinsey parce que les autres sont incapables de lui dire. C'est beaucoup plus grave que n'importe quoi, ça.
Ouais. Oui, non, c'est sûr, c'est très possible. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça nous aide beaucoup dans la gestion de l'État. Enfin, je veux
Ben non,
dire.
ça prouve simplement à force de dire des gars qui sont d'accord avec tout ce que vous dites, qui sont des bénis, oui, qui n'ont pas de. Ben voilà, on a une fonction publique qui sert à rien, qui nous coûte très cher et qui sert à rien.
D'accord.
Donc, si vous êtes le chef de l'État ou le patron d'un grand service, etc., et que vous avez le choix entre ne rien savoir en faisant venir les services de contrôle officiels, ou de savoir quelque chose en faisant venir les gars de McKinsey qui connaissent leur boulot, bah, vous faites venir les gars de McKinsey, quoi.
Ouais, mais moi ça me fait un petit peu penser aux astrologues de cour McKinsey. C'est-à-dire on leur demande, oui, alors selon vous, selon vos petits tableaux, qu'est-ce que vous pensez
Oui,
de ce
c'est eux
qu'on
qui ont fait
fait?
toute la politique aussi, toute la politique du Covid, c'est eux aussi qui ont aidé à élire Macron, etc. Donc il y a des tas de choses qu'on peut dire là-dessus, mais je veux dire, j'ai trouvé la remarque de Raoul tout à fait pertinente en me disant, bah oui, c'est peut-être que les gars qui sont descendus de l'ENA, ils ont été formés à la comptabilité publique qui date de Philippe le Bel, et ils savent peut-être pas faire une comptabilité en partie double, quoi. Ils sont peut-être incapables de la lire. Ils sont peut-être complètement incompétents.
Mais alors, est-ce que la réponse, c'est vraiment faire appel à des cabinets de conseil ou est-ce que c'est reformer une
Je ne sais pas quelle est
administration
la
un peu?
réponse, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un problème qui est beaucoup plus grave. Moi, je pensais, si vous voulez, qu'il y avait des services étatiques qui étaient très compétents. Ça a toujours été mon hypothèse de base. En France, on a toujours pensé que notre fonction publique. Mais maintenant, si nos services étatiques sont devenus complètement incompétents, on a un problème qui est beaucoup plus grave que McKinsey.
Ouais. Bon, faut peut-être
Que
juste.
de faire appel à McKinsey. McKinsey, c'est vraiment le truc qui n'a pas, qui est vraiment le résultat d'un drame. C'est-à-dire qu'après 30 ans d'écroulement de l'éducation nationale, eh ben, nos fonctionnaires sont devenus complètement incompétents.
Ouais. Bah, faut peut-être juste demander au personnel administratif de faire un stage de 3 à 4 mois au fisc ou à l'URSSAF, à mon avis, ils ressortiront tout à fait compétents, je
Peut-être, peut-être,
pense.
peut-être. Mais peut-être ils n'ont pas envie, peut-être ils sont contents d'être incompétents.
Oui, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais je trouve que
Vous ne pouvez pas forcer. Les
on
fonctionnaires qui
rajoute.
travaillent, ils travaillent parce qu'ils le veulent. Vous ne pouvez pas forcer un fonctionnaire à travailler, littéralement.
Oui.
Il y en a plein qui le font par devoir, qui sont des gens de
Oui, tout à
devoir et
fait.
qui le font bien, Mais ceux-là, ils le font volontairement. Je n'ai pas la moindre doute, par exemple, sur la capacité d'analyse d'un garçon comme Charles Pratt. Mais il le fait parce que
Oui, c'est ce que oui, il aime ça.
Et parce que c'est son devoir, parce qu'il sait qu'il doit le faire.
Ouais. Mais j'ai l'impression que ça rajoute encore des intermédiaires et des intermédiaires et des intermédiaires. Alors cette fois-ci, c'est plus du public, oui,
Oui,
c'est plus du
après,
public, c'est du
ils
privé.
ont, il y a eu 1 milliard de facturation et ils ne payent pas d'impôts en France. Alors ça,
Ouais,
c'est admirable, ça.
en plus de ça, oui. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a dit seulement hier qu'il savait qu'il était au courant qu'il ne payait pas d'impôts en France.
Il
Donc,
a été mis au courant hier?
oui.
Oui, il a dit bien
Oui.
informé, ce gars-là, c'est remarquable.
Ouais, hein, il connaît tout, hein, il connaît bien ses dossiers.
C'est celui qui voulait ruiner la Russie, oui.
Bref, sujet suivant et dernier sujet de la semaine. J'ai appris hier matin, au moment où on tourne, que TF1 n'allait pas faire de soirée électorale le soir du premier tour, mais qu'ils allaient diffuser les visiteurs. Donc c'est une première dans l'histoire de TF1, parce que d'habitude, quelle que soit l'élection, même les européennes, les régionales, les municipales, toutes les chaînes TF1, France 2, BFM, tout ça, ont fait des éditions spéciales jusqu'à 1 h du matin pour parler. Oui, alors machin, tel, il a fait 25%.
Et on fait venir tous les gars qui expliquent tout ce qu'ils ont gagné, d'ailleurs. J'ai toujours remarqué
Voilà,
ça. C'est remarquable.
ils ont tous gagné.
Ils ont tous
Il n'y en
gagné.
a aucun qui a perdu. Donc
Il
c'est
n'y en a aucun qui a
fantastique.
perdu.
Mais là, on a quelque part déjà prévu que ce n'était pas un moment politique, alors que c'est l'élection présidentielle qui est censée être normalement la plus importante. On n'a pas encore les résultats, mais je veux dire, j'ai l'impression que TF1 a déjà dit, bon, bah voilà, Macron a gagné, et ce soir, du coup, c'est les visiteurs. Voilà.
Ben oui, ben ça correspond à ce mouvement que je dénonce depuis très longtemps, d'essayer de dégoûter les Français de la politique
Tout à
en
fait.
leur disant, mais surtout ne vous en occupez pas, il y
Ouais.
a des gars qu'on a formés dans une école spéciale qui ont des résultats remarquables et qui nous gèrent depuis 40 ans, donc continuez à les laisser faire et comme ça tout ira bien. C'est vraiment
Complètement.
dans la série, si vous voulez, dormez bien braves gens, quoi.
Complètement. On dépolitise la politique, on dépolitise le peuple, on leur dit, vous inquiétez pas, toutes ces histoires de présence de la République, etc., ça
Ça
vous
concerne
concerne
très peu de
pas.
gens.
Ça vous concerne pas, c'est pas une question d'opinion publique. De toute façon, on a des questions très techniques, vous connaissez pas les dossiers. Donc, on a un tel, un tel, un tel qui sont au sommet de l'État. Ils ont fait une école tout à fait adéquate pour faire ce qu'ils font. Donc, dormez braves gens, il ne se passe rien. Laissez faire les grandes personnes et vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Et oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est le contraire de ce que demande le peuple, qui ne demande qu'à, par exemple, qu'à s'intéresser, qu'à voter, qu'à... Je vous en donne un exemple, moi, qui me paraît tout à fait stupéfiant, hein. On a fait quelques émissions de télévision ensemble, hein. J'ai été interviewé par Bercoff sur Sud Radio, j'ai été interviewé sur Télé-Liberté, là, et puis j'en ai eu une ou deux ailleurs. Je suis à 3 millions de vues en 15 jours. Mais c'est complètement anormal. Que les gens se rendent bien compte qu'un gars comme moi, qui dans le fond est là dans son petit coin tranquille, réfléchit pas plus mal qu'un autre, prend les informations où il peut et ensuite essaye d'en parler, de parler aux gens, que je fasse 3 millions de vues, ça veut dire qu'il y a un rejet total de la part de la population de l'information officielle. Et ce que fait TF1, c'est dire, ben, comme tout le monde nous rejette, eh ben, on va mettre les visiteurs. Comme ça, on fera de l'audimat.
Mais cela dit, finalement, c'est peut-être pas plus mal.
Non, mais c'est-à-dire que ça va, toute cette groupe qui est l'État et les médias et les GAFA, tout ce espèce de groupe, a décidé que la population n'avait pas besoin d'être informée et que l'élection, dans le fond, ça servait à rien. Et ils vont dans le même sens. Ben, moi, je suis pas d'accord.
Oui.
Moi, je trouve que la population doit être informée, que le citoyen doit être informé, qu'elle doit prendre ses décisions et qu'il doit avoir le référendum d'initiative populaire.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais après, justement, si on réfléchit jusqu'au bout, je viens de me faire la réflexion, on se dit, bah, finalement, que TF1 mette les visiteurs,
Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, personne ne va les regarder de toute
que
façon.
BFM fasse ce qu'ils veulent et qu'ils mettent, pareil, un film d'action ou je sais pas quoi. Et puis, bah, peut-être que les gens, justement, iront s'informer ailleurs et iront regarder vos vidéos, finalement.
Mais c'est exactement ce que j'espère et c'est ce qui se passe. Ben, quand on a créé ça il y a quelques années avec Emmanuel, ou au départ, etc., on se disait on va toucher quelques dizaines de milliers de personnes. Et ça sera déjà bien. Mais qu'il y ait 3 millions de corneaux, si j'ose dire. Dieu sait que je les remercie et je suis content. Mais ça prouve à quel point ils sont désespérés. Il y a 3 millions de
Bien
gens qui
sûr.
sont désespérés en France en disant, mais Où puis-je trouver l'information dont j'ai besoin? Comment me faire une opinion? Comment être un bon citoyen? Mais c'est un scandale. Moi, je suis bouleversé par ça. D'abord, ça prouve qu'on a eu raison. Mais surtout, ça prouve que on est gouverné par des brigands.
Mais alors, il y a certaines personnes qui essayent quand même de faire un petit peu ce qu'ils peuvent, même à la télévision, même si c'est pas forcément facile. D'ailleurs, vous avez été invité il y a quelques jours chez Rioufol,
dans l'émission CNews.
Voilà, il est très bien. Donc vous avez mis tout le plateau absolument en chaos. Vous les avez traumatisés, ces pauvres gens. Ils n'étaient pas habitués à ça.
Mais je leur ai dit ce qui se passait. C'était quand même stupéfiant.
Oui, 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 bah ils étaient stupéfaits, oui, en effet. C'est
sûr. Ouais. J'aurais dit, bah oui, quoi, on va se... Mais donc, l'information, c'est dans le fond accepter d'être mis en risque. C'est-à-dire, vous croyez quelque chose, je sais pas, que l'Ukraine, il y a que tous les gens qui sont en Ukraine, c'est des braves gens. Bon, c'est pas vrai, c'est tous ceux qui sont au pouvoir, ça a été que des brigands depuis 40 ans, donc tout va bien. Donc on arrive, on vous explique que l'Ukraine, c'est un pays de brigands, donc ça vous choque, parce qu'on vous a raconté le contraire depuis... Donc, pour accepter une information libre, il faut accepter de recevoir des grands coups dans la gueule qui vous font changer d'avis, quoi.
Oui, oui.
Et donc, ce qui vous explique, ça, vous savez, dans Tolkien, qui est là, d'ailleurs...
Ouais, juste derrière,
dans Le Seigneur des Anneaux,
ouais.
Il y a le roi des... je sais plus quoi, le roi des cavaliers, là, je sais plus comment il s'appelle.
Les cavaliers du Rohan.
Et voilà, les cavaliers du Rohan, bah, qui est tombé sous la coupe d'une espèce d'individu désagréable qui s'appelle,
oui,
Vormser, le ver.
Ouais.
Vormser, c'est le gros ver. Et qui explique au roi qu'il est vieux, qu'il est fatigué, qu'il faut qu'il se repose, surtout qu'il aille pas se battre, etc. Oui. Et le roi... Et puis il y a Gandalf qui arrive et qui met deux claques au Vormser, etc. Et le roi se réveille, se met à cheval... Ils partent se battre contre les forces du mal, ils ont remporté une grande victoire, ils meurent pendant cette campagne, mais honorablement.
Oui, ils ne meurent pas celle-là, ils meurent plus tard, quand il faut aller défendre le Gondor.
Le Gondor, c'est ça. Oui, bon, enfin, il meurt, mais enfin, il meurt après s'être battu sur son cheval, comme un homme d'honneur et tout. Et je me suis toujours dit que, dans le fond, TF1, Macron, c'était les Vormser. Ils disent au peuple, reste tranquille, reste là, ne bouge pas, meurs paisiblement. Tu sais, si tu sors, il va t'arriver. Mmh. Mais c'est pas ça. C'est, ouais. La France, c'est les cavaliers de Rouen, c'est le moment de se lever et d'aller se battre, les gars.
Ouais, le peuple, c'est pas ça, et j'ai envie de dire, même le peuple français, c'est encore moins ça.
C'est encore moins ça, c'est que c'est quand même on est à la...
Normalement, en principe, on est une population complètement ingérable qui se révolte dès qu'on se lève
là,
du mauvais pied.
Et là,
pied.
On nous a filé tellement de Valium qu'on est là, qu'on se couche en disant non, je veux mourir tranquille. Mais
on
non
est, on est complètement sous Subutex et on veut rien faire.
Non, allez, quand on se réveille un peu, on nous donne du Lexomil, allez.
C'est ça.
Mais non, réveillez-vous, les gars.
D'ailleurs, c'est littéralement ça. On est dans un record de prise d'antidépresseurs, etc.
Ne pas avoir de soirée électorale pour TF1, c'est filer du Lexomil aux gens.
Ouais.
Et leur filer les visiteurs, c'est comme si on avait mis la grande vadrouille, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Surtout, vous occupez pas ça qu'une importance.
Ouais, c'est un anesthésiant.
C'est Vormser, c'est l'horrible ver de terre qui essaye de décourager les gens courageux.
C'est ça. Et on essaye à notre échelle d'être un petit peu Gandalf.
Voilà, on essaie de leur mettre des claques.
On n'est pas les seuls, mais voilà, il y a tout un groupe de gens quand même qui existe. On contribue.
Gandalf le blanc.
Voilà, on contribue à essayer d'être Gandalf autant que possible. Donc bah voilà, on arrive au bout de cette émission quand même, un petit peu plus de 30 minutes d'enregistrement. Donc je remercie chacun des spectateurs pour son assiduité. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc notre Instagram, l'Institut des Libertés. Mettre des pouces plutôt vers le haut d'ailleurs, vaut mieux. Alors, je sais plus si YouTube a pas supprimé les pouces vers le bas. Enfin, je sais plus.
Ah, ça m'étonnerait pas, parce qu'il peut y avoir que des bonnes notes.
Oui.
Dans la ville, dans la société dans laquelle on vit, il peut y avoir que des bonnes notes.
Oui, parce qu'il y avait plein de trucs. Il y avait par exemple des publicités super super progressistes et tout contre les hommes. Contre les blancs, contre un nanan, et à chaque fois ça faisait toujours beaucoup plus de pouces vers le bas que vers le haut, du coup peut-être c'est pas bon, quoi, pour la forme de l'idéologie. Donc voilà, un petit peu plus de resserrage de vis. Bref, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Et merci à vous Charles, merci aux techniciens, voilà, merci à tout le monde.